Les béatitudes dans l'évangile de Matthieu sont bien connues. Ce beau passage où Jésus dit 8 ou 9 fois « heureux ce qui ». Mais curieusement, la version de l'évangile de Luc est beaucoup moins utilisée et on ne prêche à peu près jamais dessus. Il faut dire que la version de Luc est beaucoup plus âpre que celle de Matthieu. D'abord, elle ne contient que les 4 béatitudes, je dirais négatives, c'est-à-dire les 4 béatitudes difficiles. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés. Alors que Matthieu a rajouté très aimablement des béatitudes sympathiques. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les miséricordieux, c'est-à-dire pleins d'amour, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont doux et humbles. Et donc ces 4 béatitudes positives de Matthieu font un peu passer la pilule, je dirais, de ces béatitudes difficiles qu'il a intercalées. Mais donc Luc d'abord ne garde que les 4 béatitudes compliquées, contrariantes, dirais-je. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux ceux qui pleurent et heureux ceux qui sont persécutés. Et puis d'autre part, Luc dit les choses avec une totale brutalité, dirais-je. Matthieu a essayé d'arrondir les angles. Au lieu de dire « heureux ceux qui ont faim », il a dit « ceux qui ont faim et soif de justice ». Bon, voilà, c'est quand même plus sympathique. Au lieu de dire simplement « heureux les pauvres », il a dit « heureux les pauvres spirituellement ». Voilà. Et donc, il est moins direct, dirais-je. Et puis surtout, l'évangile de Luc fait suivre ces 4 béatitudes par 4 malédictions. Je ne sais pas comment on dit, des maltitudes peut-être, je ne sais pas quel est le mot. Le mot n'existe pas parce qu'on n'en parle jamais de ces 4 malédictions. Malheur à vous les riches, malheur à vous qui riez aujourd'hui, malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim, etc. Malheur à vous si on dit du bien de vous. Et donc ces 4 malédictions, elles sont dites par Jésus d'après Luc, mais avouez qu'on n'a pas très envie de prêcher dessus, que ce soit pour les mariages ou même ailleurs. Mais cela dit, c'est dans l'Écriture et on ne peut pas garder dans l'Écriture que les textes que l'on aime. Il faut aussi se confronter aux textes difficiles. Donc d'abord, voyons ces béatitudes de Luc. Heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui ont faim et soif, ceux qui pleurent ou ceux qui sont persécutés. De même que dans Matthieu, on pourrait les interpréter en disant qu'il faut nécessairement être pauvre, nécessairement être persécuté pour être sauvé dans le royaume de Dieu. Je ne crois pas que cela soit juste, parce que la pauvreté n'est pas un mérite. Il y a des pauvres qui sont des effroyables crapules, il y a des pauvres qui sont effroyablement malheureux et qui sont d'un égoïsme et d'une violence effrayante, et je ne vois pas du tout qu'ils puissent être présentés comme des modèles de sainteté, ni même qu'ils puissent être accueillis au royaume de Dieu avant certains riches que je connais, qui ont le cœur sur la main, qui sont d'une générosité totale, qui sont d'un don d'eux-mêmes, de capacité à partager, à aimer, à donner. Et donc, ce serait tout à fait contraire à l'Évangile de croire que les malheurs terrestres seraient une sorte de mérite, en quelque sorte. De même, je ne garderai pas non plus l'interprétation un peu tentante, dirais-je, de penser que Dieu pourrait compenser dans l'autre monde les malheurs terrestres que nous avons dans celui-ci. Je ne crois pas que ce soit vrai, tout simplement parce que je ne crois pas que la vie éternelle soit une sorte d'opposition par rapport à notre vie terrestre. Je crois plutôt que notre vie éternelle est plutôt en plénitude ce que nous avons déjà en prémisse dans cette terre, ici même. Et ce n'est pas moi qui l'invente, je le dis à partir de ma lecture de l'Évangile. Le royaume de Dieu n'est pas, si vous voulez, une sorte de réalité future qui n'aurait rien à voir avec la réalité présente, mais sans cesse, d'abord l'apôtre Paul nous dit que nous avons, nous, les prémices de l'Esprit, les prémices du royaume, et puis ce royaume de Dieu n'est pas que dans un avenir futur, après une éventuelle apocalypse, Mais déjà, le royaume de Dieu est présenté souvent dans l'Évangile comme une réalité dans laquelle nous pouvons déjà entrer dès ici-bas dans ce monde. À cet homme qui demande à Jésus où est le royaume de Dieu, et Jésus lui dit « Le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous ». Alors, on ne sait pas comment interpréter vraiment ce verset, soit c'est à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est votre cœur en tant que ce cœur accueille Dieu en lui-même. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est en vous, qui reconnaît Dieu comme Père et comme Seigneur. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est la dimension intérieure de votre foi. Et dans votre foi, là, vous avez les dons de l'Esprit. Et c'est dans la foi que Dieu nous donne la paix, l'espérance, la consolation et la plénitude. Ou alors cette phrase de Jésus qui dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », on peut le comprendre aussi en disant « Il est au milieu de vous », c'est-à-dire dans la communauté elle-même, et que le royaume de Dieu, eh bien, c'est lorsque je rencontre mon frère ou ma sœur et que je l'aime, et que je lui donne, que je la console, que je le console, que je lui pardonne et que je partage. C'est ça le royaume de Dieu. Autrement dit, le royaume de Dieu n'est pas une réalité qui va nous tomber dessus comme l'apocalypse finale. C'est une réalité qui s'enrisse, qui s'enracine dès ici-bas. Et nous sommes déjà en partie dans le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va s'accomplir et s'épanouir, dont nous avons déjà les premiers signes et les prémices ici-bas. Autrement dit, le royaume de Dieu est une réalité qui est, comme disent les théologiens qui parle un jargon qui m'agace un peu, et je vais le faire comme eux. Le royaume de Dieu, il est dans le déjà là et dans le pas encore. C'est-à-dire que nous sommes déjà en partie dans le royaume de Dieu, mais pas encore en plénitude, et nous n'y serons en plénitude que quand nous serons auprès de Dieu. Mais en même temps, nous sommes invités à travailler dans ce monde pour que le royaume de Dieu progresse. C'est-à-dire qu'au lieu que la haine, la violence et l'égoïsme règnent, que règne Dieu, c'est-à-dire la paix, la fraternité et l'amour. Autrement dit, je ne pense pas qu'il faille interpréter ces béatitudes comme mettant en opposition ce que l'on vivrait sur terre et ce que l'on vivra après la mort. Je crois bien que toutes les promesses de l'Évangile sont déjà vraies pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas de dire « supportez patiemment, soyez malheureux, traînez-vous dans la boue et dans l'horreur, et puis après la mort, ce sera merveilleux, Dieu vous donnera plein de joie ». Il y a sur cette terre une joie infinie à vivre avec Dieu. Et il y a sur cette terre les dons de la grâce et de la foi sont des trésors merveilleux qui peuvent épanouir l'existence. Autrement dit, ce bonheur des chrétiens n'est pas un bonheur promis simplement pour l'au-delà, c'est un bonheur dès ici-bas que le chrétien peut avoir. Et donc ce bonheur, alors de quelle nature est-il? Eh bien, peut-être que ces béatitudes d'abord, du coup, nous disent que c'est un bonheur qui est au-delà du fait d'avoir faim, d'avoir soif, de pleurer ou d'être persécuté. Parce que souvent, nous autres humains, nous pensons que notre bonheur va dépendre de nos situations matérielles. Et on a vu des chrétiens se précipiter en Inde pour essayer d'apporter de l'aide humanitaire aux pauvres peuplades qui mouraient de faim et se faire rembarrer par ces sages hindous qui disent aux chrétiens « Mais écoutez, on n'a rien à faire de vos sacs de riz. Nous, ce qui compte, c'est de vivre heureux et à la limite, on n'a pas besoin de riz pour être heureux. » Et donc oui, ces béatitudes nous apprennent que le bonheur est une attitude très profonde de paix intérieure peut-être, d'équilibre, d'harmonie, qui peut très bien être malgré des malheurs matériels. Et paradoxalement, on peut même pleurer parce qu'on a un événement triste, et puis au fond de soi-même avoir une certaine force, je dirais, de bonheur qui est d'un autre ordre. Et puis, ce n'est pas simplement ça, c'est aussi, je le crois, qu'il y a une véritable ressource en Dieu et que Dieu nous donne secours et consolation. C'est-à-dire que Dieu nous apporte un certain nombre de dons et de réponses à ces malheurs. Alors, vous disais-je, Matthieu a spiritualisé les demandes, les béatitudes. Et au lieu de dire simplement « heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés », il dit « heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». C'est-à-dire que Matthieu va, conscient de cette difficulté, va spiritualiser la chose en disant « Dieu n'est pas là pour livrer des petits pains chauds et des pains au lait, des croissants à une peuplade qui souffrirait de la famine sur terre. Dieu ne donne pas de pain matériel, mais Dieu va donner un pain spirituel qui est le pain de sa présence, de sa consolation, de sa tendresse, de son amour, etc. » Donc Matthieu, en quelque sorte, évite la brutalité des béatitudes de Luc. Cela dit, la question c'est de savoir si Matthieu déforme en quelque sorte les propos originaux de Jésus ou pas. Eh bien, personnellement, je ne pense pas. Je pense que Matthieu certainement rajoute quelque chose en disant « faim et soif » de justice ou pauvre spirituellement, c'est-à-dire pas matériellement. Mais en fait, je pense que Matthieu dit bien ce qui était l'intention première de la pensée du Christ. Et la preuve, elle est très simple. C'est que Luc dit « heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés ». Je n'ai vu nulle part dans le monde, depuis l'histoire du monde, que Dieu ait donné à manger matériellement à des gens qui aient faim matériellement. Des peuplades entières meurent de faim, je dirais en Éthiopie ou ailleurs. Où est Dieu? Il n'est pas là. Et donc Dieu ne donne pas de pain matériel. C'est comme ça. On aimerait que Dieu nourrisse. On nous montre ces photos des petits Africains avec le ventre gonflé, les bras minces comme un stylo. Et on dit où est Dieu? Eh bien Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'est pas dans le fait de donner du pain matériel. Et donc oui, il faut l'admettre, Dieu ne donne pas de pain matériel à ceux qui ont faim. C'est comme ça. Il donne autre chose. Et cette autre chose, c'est du pain spirituel, bien sûr. Parce que, a-t-il dit encore, lors des tentations, justement, où Jésus a faim, précisément, et le diable lui dit « transforme ces pierres en pain, puisque tu es fils de Dieu », et Jésus dit « certainement pas ». Parce que justement, il faut éviter cette tentation de croire que Dieu pourrait être là au service de notre ventre. Et donc il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc voilà la première tentation à dépasser, c'est justement de croire que Dieu serait une sorte de formule magique, de sorcellerie permettant de donner des avantages matériels pour se remplir le ventre. Dieu n'est pas de cet ordre-là, point. Par conséquent, heureux ceux qui ont faim car ils seront rassasiés, évidemment qu'il s'agit là d'autre chose que de pain matériel. Heureux ceux qui ont faim, donc oui, Matthieu a raison, faim de quoi? Faim et soif de justice, parce que de cela ils pourront être rassasiés. Si vous avez faim de pain, débrouillez-vous pour trouver du pain et n'attendez pas que ce soit Dieu qui remplisse. Dieu vous rassasiera d'autre chose. Donc je crois que la logique même interne du texte de Luc montre que, en fait, Matthieu n'a pas du tout détourné les propos de Jésus, mais au contraire, il a essayé de préciser pour les braves gens sans grande culture théologique qui risqueraient de prendre ces béatitudes comme des promesses de sorcellerie. Et finalement, effectivement, donc du coup, il s'agit non pas tellement de situations matérielles, mais de situations spirituelles. Et là, c'est plus simple, parce que la faim et la soif, eh bien, c'est de désirer aller plus loin, d'avoir envie de quelque chose, d'avoir du désir dans sa vie. C'est affreux quand on n'a plus aucun désir, quand on ne désire plus rien, quand on n'a plus aucune envie, plus aucun manque, plus aucun besoin de rien. Ça, c'est une sorte de mort, en quelque sorte. La vie elle-même, elle n'est faite que parce qu'on est tendu vers des objectifs, vers des volontés, vers des désirs d'avancer, de grandir, de progresser, d'aller faire quelque chose que l'on n'a pas fait, de réussir quelque chose que l'on n'a pas réussi. C'est ça, la vie. La vraie vie, c'est de ne pas se contenter de ce que l'on a. Et donc, oui, heureux ceux qui ont faim de quelque chose, ceux qui ont soif de quelque chose, parce que ceux-là sont vivants. Le jour où vous n'aurez plus faim de rien, plus soif de rien, plus envie de rien, eh bien vous ne serez non seulement pas heureux, mais vous serez pratiquement mort spirituellement. Quant aux pauvres, eh bien ce n'est pas le fait d'être riche ou pauvre qui compte, mais c'est de se savoir pauvre spirituellement. Et peut-être que cela a à voir avec une certaine forme d'humilité. Heureux celui qui se sait pauvre, celui qui ne prétend pas tout savoir, avoir la foi extraordinaire, celui qui ne se pavane pas en disant « je suis un bon chrétien, je suis bon, je suis généreux, j'ai la foi, je suis un modèle, un parangon de vertu, etc. » Quelle horreur! Mais heureux celui qui s'est dit « oui, moi je suis petit, même dans la foi, je ne suis pas l'exemple même de la piété, de la sainteté, de la perfection morale. » Heureux celui qui se sait pauvre spirituellement. C'est ce que dit également un beau verset de l'Apocalypse, que j'aime beaucoup dans une des sept lettres aux sept églises, quand Jean dit à je ne sais plus quelle église, « Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi », eh bien, je malheur à toi, et je te conseille de reconnaître que tu es pauvre, aveugle et nu, et de venir vers moi, et je te donnerai de l'or, et je te donnerai un collyre pour tes yeux, afin que tu voies. » Et donc c'est ça, celui qui se sait pauvre, eh bien, une fois de plus, il peut également grandir et avancer. Quant à ceux qui pleurent, eh bien, je vais vous dire une chose, oui, heureux ceux qui pleurent, parce que rien n'est pire que l'insensibilité. Et rien ne serait pire qu'une sorte de cynisme que l'on voit parfois chez certains êtres, qui ne pleurent de rien, qui ne souffrent de rien, et qui sont dans une sorte d'indifférence froide et glaciale à l'égard des autres, à l'égard des malheurs des autres, à l'égard de tout ce qui arrive dans le monde. C'est-à-dire, malheur à vous, oui, si vous ne pleurez jamais. Le fait de pleurer, c'est d'être capable de compatir avec un autre. Pleurer, cela veut dire que si on perd un être, cela veut dire que l'on s'y est attaché. Et donc pleurer, cela veut dire simplement qu'on a aimé. Et celui qui ne pleure jamais, c'est qu'il n'a jamais aimé. Voilà. Et donc oui, heureux ceux qui pleurent. Parce que l'Évangile ne nous invite pas à nous détacher du monde. Et comme certains philosophes grecs à dire qu'il faudrait avoir ni joie ni peine, ou comme ces philosophes stoïciens, vous savez, qui enseignaient de surtout ne jamais s'attacher à rien ni personne, parce qu'on serait trop triste quand ces personnes ou ces êtres ou ces animaux ou ces objets meurent ou disparaissent. L'Évangile, au contraire, nous invite à nous engager dans le monde, à nous jeter dans le monde. Il nous invite à aimer. Il nous invite à nous engager, à croire dans des projets, à essayer de faire des choses. Et ça, c'est risqué de pleurer, oui. Et donc, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils ont fait le bon choix de leur vie, qui est celui de s'engager dans le monde. Et ce que dit Jésus, c'est que ceux-là, eh bien, dans le fond, ils ne le regretteront pas. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande dimension de plénitude de la vie. Celui qui ne pleure jamais, il n'est peut-être pas malheureux, mais il n'est pas heureux, parce que le bonheur, c'est autre chose. Et de même, heureux ceux qui sont persécutés ou ceux dont on dit du mal, parce que ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont milité pour quelque chose. Celui dont on ne dit jamais de mal, c'est celui qui ne fait rien. Celui qui s'engage, qui croit dans un combat, celui qui va parler à l'autre, qui va essayer de faire des choses, eh bien oui, il va forcément subir une résistance, en quelque sorte, et des oppositions. Eh bien, ce sera difficile, mais heureux est celui-là. Parce qu'en effet, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, ce sont des bonheurs un peu compliqués, certes, mais heureux ceux-là, parce que tous ces gens dont j'ai parlé sont des gens qui sont en marche, des gens qui sont en route. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qu'on dit très souvent dans les églises, donc pardon pour les habitués. Et c'est que le mot « heureux » en hébreu vient d'un verbe « achar » qui veut dire « être debout et en marche, en mouvement ». C'est-à-dire que le bonheur dans la Bible n'est pas une dimension statique, mais une dimension dynamique. Être heureux pour la Bible, c'est avancer. Et le comble du malheur, c'est d'être arrêté. Et donc tout ce qui dans notre vie peut nous mettre en avant, tout ce qui peut nous mettre en mouvement, tout ce qui peut nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire progresser, tout cela, ce sont des choses bonnes. Tout ce qui nous met en marche est bon. Et donc, justement, nous sommes très loin, là, de la notion grecque d'ataraxie, c'est-à-dire, vous savez, cette philosophie stoïcienne qui disait l'idéal du bonheur, c'est un lac sans une ride. Voilà, situation statique. Et je vous ai dit déjà aussi que, pendant, je dis souvent ça dans les mariages, quand on voit les couples qui sont là, si beaux, si jeunes, si rayonnants, si en bonne santé, si pleins d'amour, et on leur dit pourvu que ça dure, autrement dit. Et cette notion d'un bonheur qui ressemble au château de sable que font les enfants sur la plage, menacés de toutes parts par la routine, par la maladie, par le chômage, par l'épreuve, par... Eh bien, on a l'impression que ces jeunes sont dans une sorte de situation incroyablement fragile et précaire. C'est se tromper sur la notion de bonheur. Le bonheur n'est pas un état à défendre contre les agressions extérieures, à défendre contre le deuil, contre l'opposition, contre les épreuves diverses. Mais le bonheur, c'est d'avancer. Le bonheur, c'est d'être en route. Et donc, ces couples-là, ils sont peut-être heureux assis sur leur banc, à être jeunes, beaux, jolis et à s'aimer, mais je crois que le plus grand bonheur de leur vie, il n'est pas là sur les bancs, il est dans ce chemin qu'ils vont faire et dans ce qu'ils vont créer, dans cette façon ensemble de se battre, d'avancer, de surmonter les épreuves, les difficultés et d'aller plus loin et d'être sans arrêt en route et en marche. Tout dans la Bible, sans arrêt, n'est qu'une question de marche. Le pèlerinage dont malheureusement la tradition chrétienne a fait une sorte de chemin de grande randonnée. Les gens croient que s'ils font un pèlerinage par le GR X ou Y pour aller ici ou là, ils vont gagner des grâces. Mais c'est d'être en chemin dans sa vie. Le chrétien est un pèlerin, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui marche, qui avance, qui est en route, qui n'est jamais le même aujourd'hui qu'hier et qui encore aspire à être autre chose demain. C'est d'être sans arrêt en avancée. Et c'est peut-être là le danger de certaines chances matérielles. En effet, le danger de celui qui peut-être a trop de biens matériels, c'est de croire que justement c'est ça qui devrait lui donner son bonheur ou de ne pas chercher au-delà. Et peut-être que c'est cela que Jésus a voulu dire quand il dit « Malheur à vous qui êtes riches » ou « Malheur à vous qui riez maintenant ». Parce que vous risquez de vous dire « Eh bien, c'est bon, ça va, j'ai ce qu'il me faut, j'en profite. » Alors là, vous êtes plutôt mal parti. Parce que justement, le bonheur, ce n'est pas de se dire « j'en profite », le bonheur, c'est de se dire « qu'en fais-je pour avancer et pour aller ailleurs ?» Et donc, ce malheur, je comprends, même si c'est peu sympathique, je comprends ce malheur, cette mise en garde que Jésus met à l'égard de ceux qui sont riches, qui sont rassasiés ou dont on dit du bien. Et en même temps, ce malheur à vous est compliqué dans l'Évangile parce que souvent on dit que Jésus donne des malédictions aux riches ou aux autres. Ça ne ressemble pas trop à Jésus. Jésus ne dit pas de malédiction à qui que ce soit. D'ailleurs, il dit « bénissez et ne maudissez pas ». Jésus dit qu'il faut même bénir ses ennemis et qu'il ne faut surtout pas les maudire. Pourquoi tout à coup il viendrait à maudire les riches ? Faut quand même, c'est tout à fait incohérent. Donc c'est très bizarre ce malheur, ce quatre fois malheur que l'on a dans l'évangile de Luc. Et du coup, j'ai cherché de plus près. Donc j'ai ressorti mon Nouveau Testament en grec et je me suis dit « mais qu'est-ce qu'a dit Jésus ?» Est-ce qu'il a dit une formule de malédiction ou pas ? Eh bien, bizarrement, le mot grec que l'on traduit par malheur, pour une raison que j'ignore, est un mot qui n'existe pas. C'est une onomatopée. Je vous dis le mot en grec, vous allez le comprendre en français. C'est « why ». C'est-à-dire, Jésus dit « aïe, 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 vous les riches ». Mais « why », ce n'est pas un mot, ça ne veut rien dire. Ça traduit le mot hébreu « oï », qui ne veut rien dire non plus. « Oï », ça veut dire « oï, oï, oï ». Aïe, 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 ça veut dire ouh là là, ouf, ouh là là là, aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas d'imprécation, il n'y a pas de malédiction, juste une sorte de mise en garde. Aïe, 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 vous les riches, parce que vous risquez de croire que votre richesse aura quelque importance. Donc vous êtes effectivement en danger. Et prenez garde, parce qu'il y a dans toutes ces situations des risques d'immobilisme. Et dirais-je même, si on étudie l'usage de ce mot « oï » dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il n'est d'ailleurs pas toujours négatif. Dans certains cas, il est même positif. Dans le passage que je vous ai lu, justement, nos traducteurs, une fois de plus, nous trompent, parce que « oï », ils le traduisent par « malheur » dans certains cas, sauf dans, par exemple, ce passage d'Ésaïe 55, et qui est magnifique, qui dit « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, sans payer, sans argent, sans rien, abreuvez-vous et buvez à ma parole. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux gratuitement. » Eh bien, ce que nos traducteurs traduisent par « Ô vous tous », c'est ce même mot « oï ». Et donc, ce n'est pas « malheur à vous », c'est « oh là là, vous tous ». Venez pour attirer l'attention et de dire « Oh, vous tous qui avez soif, venez !» Et tiens d'ailleurs, on est quand même très proche aussi de notre béatitude là. « Oh, vous tous qui avez soif !» Et le texte de l'Ancien Testament ne dit « Oï, vous tous, aïe, 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 vous qui avez soif !» C'est-à-dire, il y a quelque chose là, il y a un endroit, quelque chose où il peut se passer quelque chose d'important. Et donc ce « oï » s'adresse aussi bien à ceux qui sont en bonne situation que ceux qui sont en mauvaise situation. « Ô vous tous qui avez soif !» Et je dirais aussi « Ô vous tous qui croyez tout avoir !» Eh bien, prenez garde et rappelez-vous, comme dit l'Apocalypse, que vous n'êtes pas si riche que ça, mais venez à Dieu qui peut vous donner la vraie richesse. « Et ô vous tous qui vous croyez rassasiés !» Souvenez-vous que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il faut aussi se nourrir d'autres choses. Et ô vous tous, dont tout le monde dit du bien, eh bien, sachez que Jésus lui-même, il est mort sur la croix. Voilà. Et donc, aucune malédiction dans ces paroles de Jésus. Juste un appel, une mise en garde, d'attention, un appel à l'attention du lecteur. Alors, enlevez vos malheurs à vous les riches, malheur à vous qui riez, malheur. C'est ô vous qui êtes riches. Prenez garde, ô vous qui riez aujourd'hui, faites attention. Parce que voilà, Dieu est un Dieu de consolation, de joie et de paix. Mais dans tous les cas, il est vrai que tout peut recéler une part de tentation. Et je dirais même l'épreuve, finalement, je dirais, ô vous qui avez soif et qui avez faim, faites attention aussi, tiens, je vous dirais ça également. Parce qu'il y a aussi la tentation de se complaire dans l'épreuve et de se dire « Ah, oh, je suis malheureux, j'ai faim, j'ai pas ceci, j'ai pas cela ». Ça, ce serait l'inverse du bonheur. Mais dans tous les cas, vous êtes heureux si vous savez avancer, si vous savez vous mettre en avant, en marche, avec votre confiance dans ce Dieu qui est véritablement un Dieu de consolation, de joie, de force et de paix et de vie. Et si vous savez que vous n'êtes pas appelé à construire vous-même votre vie comme une sorte de château extraordinaire, mais que vous êtes invité à recevoir d'un autre que vous-même. Et donc tout ce qui vous met en disposition de vous ouvrir à Dieu, de vous ouvrir à l'autre et de recevoir, sera pour vous une source de bonheur infini. Et quelle que soit la circonstance, vous êtes heureux si vous savez vous mettre debout, si vous savez vous mettre en marche vers votre Seigneur, comptant sur lui et sur lui seul, dirais-je, pour donner sens ultime à votre vie. Ce Dieu est le Dieu de la vie, il est le Dieu de la joie et de la paix pour aujourd'hui et éternellement. Amen.